sont centrales parce que l'Afrique est enseignée, est au collège, où les professeurs qui enseignent au collège choisissent un grand ensemble africain. Elle est au lycée à travers la question des grands enjeux du développement durable et la mondialisation. Elle est aussi au concours de recrutement des professeurs, CAPES, agrégation, avec des découpages un peu inédits. L'Afrique occidentale, le Sahara, la Méditerranée, pour les questions de concours qui nous ont amenés à choisir ce mode de table ronde pour approfondir à la fois des thématiques. On va revenir à travers trois thématiques sur les mouvements de fond de manière à cerner les enjeux du développement en Afrique autour de trois thèmes: la transition démographique, la révolution urbaine, les nouveaux partenariats internationaux, et puis de grands ensembles régionaux ou aires régionales: l'Afrique de l'Ouest et le Sahara, l'Afrique australe et l'Afrique orientale. Parce qu'il nous semble, et on l'a vu à travers la conférence d'Alain Dubresson, qu'il le faut, pour comprendre l'ère continentale, dépasser la version unifiée de l'Afrique et passer de l'Afrique aux Afriques, en insistant sur quelque chose qui est central dans le raisonnement géographique, c'est-à-dire les changements d'échelle et le fait de saisir les phénomènes à des échelles intermédiaires et des grandes échelles. Donc c'est tout l'objet de cette table ronde qui va nous permettre d'approfondir et de développer toutes les thématiques, de revenir sur les thématiques de la première partie de la matinée. Voilà, et on va démarrer donc par le premier thème.
Je voudrais vous présenter donc Jérôme Magrin qui nous a rejoint. Donc Jérôme est professeur de géographie à Paris 1, au laboratoire Prodig. C'est un spécialiste à la fois de la géographie économique, de la géographie régionale, de l'Afrique. Et en particulier, moi je me félicite qu'il ait travaillé sur les ressources sur les firmes transnationales et la mondialisation. Ce sont des enjeux importants et il faut qu'ils soient couverts. Sur les publications, tu as participé à l'Atlas d'autres mondes de l'Afrique que vous avez fait tous les trois et qui vient de paraître en 2017. Tu as été un spécialiste du lac Tchad, je crois que c'est important de le dire. Tu as publié de nombreux articles dans des revues, les Cahiers de l'Outre-mer, Autre part, Monde en développement, Afrique contemporaine. Tu as travaillé sur la Centrafrique, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, donc je crois que tu as aussi une très belle... Moi j'ai été impressionné par ton livre publié à la Sorbonne en 2013, Voyage en Afrique entière, et la question des trajectoires de développement. Je crois que la première thématique, c'est la transition démographique. Bon, d'abord, les trois quarts des statistiques mondiales sont fausses quand même, que ce soit le PIB mondial ou la démographie. Vous l'avez bien dit, quand vous n'avez pas l'appareil d'État ou que la population et les acteurs économiques et sociaux n'ont pas une confiance suffisante dans l'État, vous ne pouvez pas avoir d'appareil statistique viable. Vous ne pouvez avoir d'appareil statistique viable que si c'est un rapport à peu près démocratique et ouvert à l'État et aux sociétés. Et c'est en particulier lié, vrai, bien, aller calculer le PIB du Mali, ou aller calculer le PIB de la Centrafrique, ou même les populations sont peu ou mal dénombrées. Donc, il faut utiliser les statistiques, mais il faut les prendre comme des grands éléments de valeur. Et ce qui est frappant aujourd'hui avec les économistes en particulier, c'est qu'on a une inflation statistique sur des fondements scientifiques et de maîtrise des réalités qui sont extrêmement aléatoires, extrêmement fragiles. Et ça invalide bien sûr en partie toute la mise en statistique du monde quand même. Alors, ça se pose en particulier pour la transition démographique. Je crois qu'elle est, elle est peu ou mal, c'est un concept qui est peu ou mal maîtrisé, à la fois en histoire, en géohistoire et en géographie. La transition démographique en Europe au XIXe siècle, avec les progrès sanitaires, sociaux, c'était quoi? Les Européens sont partis à la conquête du monde, avec leurs systèmes impériaux. On a quand même dépeuplé toute l'Amérique du Nord, une large partie de l'Amérique latine, l'Australie, etc. Ces processus de transition démographique qui font qu'à un moment donné, le stock de population explose sur un continent ou un pays, les Africains y sont aujourd'hui confrontés. Mais contrairement à la position impériale européenne où il y a un siècle et demi, on pouvait partir à la conquête du monde, ce processus de conquête du monde africain, il est aujourd'hui interdit. Donc il pose des questions redoutables de développement économique et social. Imaginez qu'au XIXe siècle, lors de la transition démographique, les Européens n'aient pas pu partir à la conquête du monde. Comment ça serait traduit, hein, dans le... Donc cet interdit migratoire et cette obligation faite aux populations d'Afrique de rester et de régler leurs problèmes internes posent aujourd'hui des enjeux majeurs. Alors, Alain l'a rappelé, 2015, 1,1 milliard d'habitants, 2050, hein, plus de 2,5 millions. Hein, donc en gros, en une génération, 1,2 milliard d'habitants à accueillir. Vous imaginez l'enjeu ? Et une population qui est multipliée par 105%. Hein, alors un indice de fécondité, tu l'as dit, qui reste un des plus élevés du monde, et tu l'as dit aussi, hein, c'est l'INED a publié la semaine dernière, 41% de la population a moins de 15 ans. Hein, Donc on est là face à des enjeux tout à fait considérables. Alors, trois éléments. D'abord, la question des ressources, de la croissance et du développement ou du mal-développement. Hein. Je pense en particulier à toute la question de la mise en valeur et des réponses à apporter, hein, aux besoins sociaux et économiques, emploi, formation. La question des mobilités et des migrations et la question des tensions et des crises. Hein, je crois que sur la transition démographique, c'est déjà pas mal.
Merci. Oui, je crois que Laurent a appliqué la bonne diapositive. Je voudrais commencer par remercier Laurent Carouet, Christelle Joanneau, Catherine Gaggi, l'équipe de l'inspection générale qui m'a convié à participer avec l'équipe aussi de la direction scientifique du FIG, hein, pour m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions et pour prolonger la discussion que Alain a brillamment introduite ce matin. Pour commencer, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les implications géographiques, hein, en réponse à la question posée de la transition démographique. Il y a un historien britannique, John Iliff, qui considère que la démographie, c'est la clé de lecture principale de l'histoire de l'Afrique. Et il me semble que quand on veut comprendre la situation actuelle de l'Afrique d'un point de vue de géographe, eh bien, la démographie, c'est aussi une dimension qui est absolument fondamentale. C'est peut-être un des moteurs principaux des dynamiques territoriales actuelles, hein, une vague de fond. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique si on ne met pas au centre de la réflexion cette formidable poussée démographique qui a été présentée ce matin. Alors, je vais pas revenir sur la définition de la transition démographique, hein, sur les mécanismes de la transition démographique, vous connaissez cela, hein, une baisse décalée de la mortalité et de la natalité. L'Afrique, hein, est entrée dans la transition démographique, mais elle y est entrée tard. C'est le continent à y être entré le plus tard. Elle est actuellement, à la fin de la phase 1 de la transition démographique, hein, où la mortalité a baissé, mais dans une proportion limitée. Et la fécondité commence à diminuer, mais avec, c'est assez important de le souligner, des très grandes disparités selon les lieux. Hein, vous avez, à toutes les échelles, vous avez une opposition entre, en gros, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, où la transition démographique est quasiment achevée. Et puis, à l'intérieur des ensembles régionaux, on peut trouver des contrastes importants. Alors, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, entre le Niger, où vous avez un indice de fécondité qui est encore de 7,6 enfants par femme, qui est considérable, et puis un pays comme le Ghana, par exemple, où l'indice de fécondité a atteint 4,2. Ces différences très importantes, on les retrouve à toutes les échelles. Hein. Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, il y a une différence très importante entre les milieux ruraux et les milieux urbains, et à l'intérieur même des villes, entre certains quartiers. Hein, par exemple, dans la ville de Saint-Louis, le quartier des pêcheurs, où les gens scolarisent peu leurs enfants et où les enfants partent très tôt sur les pirogues gagner leur vie, eh bien, a un niveau de fécondité qui est resté extrêmement élevé, alors que le reste de la ville, c'est une des villes où le taux de scolarisation est le plus élevé du pays, a des taux de fécondité qui sont de l'ordre de 4, hein, donc avec une transition démographique qui est déjà bien avancée. Donc en fait, c'est le mécanisme, c'est un... J'irai avec toutes les incertitudes qui ont été soulignées ce matin, il y a une diffusion de cette transition démographique qui se fait de certains milieux, principalement urbains, vers le reste de la société, avec des rythmes très, très différents. Alors pour répondre à la question que posait Laurent Carboué à l'instant, je voudrais revenir sur les conséquences, en fait, des implications territoriales et socio-économiques, finalement, de cette poussée démographique. La poussée démographique maximum en Afrique, elle a eu lieu au plus mauvais moment. Hein, on était dans les décennies 80-90, dans une période de crise économique profonde en Afrique, qui a été accompagnée par ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel. Hein, donc une situation de crise économique des États qui ont dû mettre leur politique économique sous tutelle des institutions internationales. Et ça a été le moment où la démocratisation a été un petit peu, je dirais, s'est mise en place aussi dans les années 90 avec des impulsions extérieures après la chute du mur de Berlin et des revendications nationales africaines. Donc on avait à la fois une crise économique, une désévolution politique majeure, une démocratisation accélérée dans un contexte où le nombre des inactifs par rapport aux actifs était extrêmement élevé. Hein, on avait le rapport entre les actifs et les inactifs était en Afrique à ce moment-là de 1 pour 1. Ça a été quasiment un record dans l'histoire mondiale. En Europe, un des problèmes de ce rapport, c'est la proportion importante des personnes âgées par rapport aux actifs. Eh bien, en Afrique, c'était la proportion considérable des moins de 15 ans par rapport à la population totale. Alors, on arrive aujourd'hui du fait de ce début de ralentissement de diminution de la fécondité qu'on a évoqué tout à l'heure, à ce que les démographes appellent le dividende démographique, cette idée que la baisse de la proportion des inactifs par rapport aux actifs pourrait fournir des ressources supplémentaires pour la consommation, pour l'épargne, pour l'investissement. Alors les retraites, c'est pas encore un problème majeur en Afrique, sauf exception, peut-être en Afrique du Nord, en Afrique australe, ça commence à devenir un problème, mais je dirais dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest, les autres régions, c'est pas encore un problème central. Donc l'idée, hein, c'est quand un pays touche son dividende démographique, c'est une situation où la proportion des inactifs par rapport à celle des actifs diminue du fait de l'évolution de la transition démographique, et ça crée une fenêtre d'opportunité économique. Ce dividende démographique, il est d'autant plus marqué que la baisse de la fécondité est rapide. Par exemple, dans des pays comme l'Éthiopie, qui connaissent une baisse de la fécondité relativement rapide depuis quelques années, eh bien, ce dividende démographique pourrait être plus net, plus marqué que dans un pays comme le Burkina Faso, par exemple, où le ralentissement de la fécondité est extrêmement progressif. Alors, on a l'impression que le dividende démographique, voilà une solution au problème africain. Et peut-être un élément qui permettrait de comprendre l'émergence possible de l'Afrique. Par exemple, dans la période de très forte croissance chinoise récente, il y avait seulement 1 inactif pour 2,5 actifs, hein, du fait de la réduction drastique de la fécondité en Chine à la suite de la politique de l'enfant unique. Donc cet élément a contribué à l'émergence chinoise. Alors on se dit, en Afrique, on pourrait avoir la même situation. Oui, peut-être. Le hic, le problème, c'est que vous avez un nombre d'entrants sur le marché du travail chaque année qui est considérable, hein, du fait de la structure de la pyramide des âges. Vous avez à peu près 22 millions de jeunes Africains qui, chaque année, entrent sur le marché du travail, c'est-à-dire des gens qui ont 15 ans chaque année et qui vont être en position de chercher un travail. Ce qui représente, alors par exemple pour un pays comme le Tchad, hein, d'une dizaine de millions d'habitants, c'est à peu près 300 000 entrées sur le marché du travail par an. Pour un pays comme l'Éthiopie, qui est beaucoup plus grand, hein, près de 100 millions d'habitants, ça fait 2 millions de personnes par an qui rentrent, de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, un défi majeur, c'est d'arriver à créer de l'emploi pour cette jeunesse, au risque d'alimenter des tensions sociopolitiques multiformes, car parmi tous les facteurs, je dirais, d'instabilité que Alain Dubresson a mentionné tout à l'heure, et les conflits, eh bien, une jeunesse, je dirais, nombreuse et peu scolarisés et sans perspective d'avenir socio-économique et sans possibilité finalement de passer à l'âge adulte hein, en trouvant sa place dans la société à travers un emploi, eh bien cette jeunesse constitue une masse qui est mobilisable à la fois pour des aventures politico-militaires, qui peut être recrutée donc pour derrière des mouvements rebelles ou dans des conflits, qui peut aussi servir de petite main dans les trafics qui se multiplient notamment dans le Sahara. Hein, et où les possibilités d'enrichissement rapide, évidemment, offrent un débouché. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Alors donc, ça constitue une implication majeure hein, sur les choix de politique de développement. Or, j'aurais pu vous montrer cette carte plus vite. Cette carte, elle vous montre le nombre d'entrants sur le marché du travail hein, entre 2015 et 2030. En jaune, ce sont des jeunes, c'est la proportion, quand on est dans les couleurs jaunes, c'est que la proportion de jeunes entrant sur le marché du travail est plus importante en milieu urbain. Et quand les couleurs sont rouges, c'est que ce sont surtout des ruraux. Vous voyez qu'en Afrique orientale, vous avez un nombre considérable de jeunes ruraux qui arrivent sur le marché du travail. Or, cette situation, elle entre en résonance avec les débats sur les politiques agricoles. Alain Dubresson a mentionné un discours international prégnant depuis un certain nombre d'années sur le fait qu'il y aurait beaucoup de terres disponibles en Afrique. Terres disponibles au sens de terres non mises en valeur selon des critères occidentaux. Hein, sachant que quand on regarde dans le détail, quand on regarde les espaces qui sont utilisés pour le pastoralisme, les réserves foncières constituées par les jachères, des terres qui sont utilisées, qui sont des communs en fait, qui fonctionnent comme des communs pour la forêt, la cueillette, etc., on se rend compte qu'il faut avoir beaucoup de distance par rapport à ces discours sur la disponibilité foncière en Afrique. En tout cas, c'est un discours qui est important. Dans la réalité, c'est difficile de trouver autant de terres disponibles qu'on le dit, mais c'est un discours qui est prégnant. Et ce discours, il est très important pour légitimer les politiques qui encouragent les investissements fonciers à grande échelle, la thématique du land grabbing, de l'accaparement foncier. Or, vous voyez sur la carte de droite que ces politiques d'accueil et d'encouragement à des investissements fonciers à grande échelle ont été particulièrement développées en Afrique de l'Est, notamment entre l'Éthiopie, le Mozambique, la Tanzanie, la RDC. Hein, donc, dans ces pays où vous avez une très nombreuse jeunesse rurale qui a besoin de trouver un emploi. Un des problèmes, c'est que ces schémas de modernisation agricole basés sur des investissements extérieurs hein, reposent souvent sur de très grandes exploitations mécanisées. Et donc, qui dit mécanisation, dit exclusion du marché de l'emploi de très nombre de jeunes. Et politiques agricoles, elles sont souvent menées au détriment de l'agriculture familiale et donc de l'accès des ruraux aux terres agricoles. Alors, cette implication de la croissance démographique, de la transition démographique, elle est très forte sur le plan territorial. En Afrique de l'Ouest en particulier, dans un certain nombre de régions où les densités démographiques sont élevées, le mode de croissance de la production agricole jusqu'ici, ça a été d'étendre les superficies cultivées sur un mode extensif. Or, ce modèle de développement, d'augmentation de la population et de l'agriculture, il est aujourd'hui dans une impasse. Il y a une expression que les Burkinabés utilisent, c'est « la terre est finie ». C'est-à-dire que l'idée qu'on va pouvoir cultiver quelques parcelles et puis garder des jachères et avoir une agriculture très extensive qui consomme beaucoup d'espace et qui dispose de beaucoup de réserves foncières, eh bien, avec la croissance démographique à laquelle on assiste, ce modèle se trouve dans l'impasse. Il faut trouver des moyens d'intensifier la production agricole pour nourrir les gens, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la terre. Et si l'on veut imaginer des politiques agricoles qui ne s'accompagnent pas de déstabilisation politique et sociale, il faut arriver à inventer des politiques agricoles qui soient intensives aussi en main-d'œuvre, qui utilisent la main-d'œuvre, qui fournissent des emplois pour ces jeunes. Donc le schéma, si vous voulez, du développement implicite qui a fonctionné dans la révolution industrielle européenne, hein, révolution agricole, mécanisation, des bras libérés pour l'industrie et le développement derrière, avec une soupape migratoire que Laurent Carreau évoquait vers l'Amérique, le Nouveau Monde, etc., pour absorber l'excédent démographique, ce schéma-là, il ne peut pas se développer en Afrique. L'Afrique ne peut pas, et donc doit inventer d'autres modèles, sans doute plus progressifs, et qui reposent sur un emploi agricole et rural, probablement en partie autour de l'agriculture familiale, qui occupe aujourd'hui une grande majorité de la population. Voilà, peut-être...
Alain, tu as des compléments ou des éléments? Comment fonctionne en question ou...
On peut peut-être terminer avec la transition urbaine et puis après avoir un ensemble de questions qui permettraient peut-être d'avoir moins de fonctionnement. Cet été, Alain Dubresson a un reportage du Monde, une enquête du Monde qui s'intitulait « L'Afrique en ville » et qui conduisait le lecteur de Tanger à Kinshasa. Il était en relief différents aspects de la révolution urbaine, avait une approche un peu, pas catastrophiste, mais un peu sous forme d'alerte. 1 milliard de citadins en 2040, l'Afrique était prête. Alors, c'est une enquête intéressante parce qu'elle montre un peu, dans ce que vous avez évoqué, on oscille entre le catastrophisme le plus inquiétant et des formes de modernité qui sont détaillées par des exemples, mais en tout cas qui met bien l'accent sur à la fois les spécificités du fait urbain que vous avez développé et sur lequel on pourrait revenir, à la fois métropole, métropolisation et urbanisation par le bas, mais aussi peut-être avoir des exemples sur les formes de l'urbanisme africain, notamment des métropoles autour de l'étalement et de la fragmentation, qui sont des spécificités, et puis l'articulation peut-être des villes et des territoires, comment cela fonctionne-t-il en Afrique?
Bon, alors effectivement, l'enquête du Monde, ou les enquêtes publiées dans le Monde, là, ont mis l'accent sur cette révolution urbaine. Enfin, moi, je parlerais plutôt de la question urbaine. Je ne suis pas sûr que ce soit une révolution. Enfin, on pourrait discuter sur le terme. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les médias qui se préoccupent de ça, parce que vous avez sous les yeux deux des dernières publications de l'OCDE et de la Commission des Nations Unies, de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, et vous voyez que la question de la ville... et du rapport entre industrialisation et urbanisation ou de la transformation structurelle de l'économie africaine redevient une question majeure. Donc c'est pas seulement une question médiatique, c'est aussi une question fondamentale pour les institutions africaines. Alors pourquoi est-ce que c'est une question fondamentale? Voilà, on le voit très bien sur ce graphique, c'est une question fondamentale parce que si vous regardez bien ce graphique, vous voyez que c'est en Afrique que le gain mondial de nouveaux citadins sera sans doute le plus important au monde. Donc si on attend en gros 830 millions de citadins en plus, donc de 2015 à 2050, il va falloir accommoder en ville environ 830 millions de citadins. Et vous voyez que ce qui est intéressant sur le graphique que vous avez sous les yeux, c'est que la population urbaine en Afrique sera plus importante que la population urbaine en Chine, en Inde, sur l'Amérique latine et l'Europe. Donc c'est un défi colossal, un défi majeur. Le défi du nombre crée aussi un défi qualitatif en quelque sorte. Alors, pour revenir sur ce que vous avez souligné, je vais le prendre de trois façons. En changeant d'échelle, je vais commencer par le défi de l'habitat, parce que ça, c'est un défi majeur. C'est-à-dire l'habitat au sens. Qui combine à la fois la tenure du sol, la question foncière, la question du logement et les services de proximité. Donc je vais dire par là, il ne faut pas résumer le problème de l'habitat au problème du logement. C'est une notion plus vaste. Il faut bien expliquer ça aux élèves. L'habitat, c'est l'habitus, c'est pas seulement loger, c'est aussi avoir accès à des services et en même temps avoir une tenure foncière qu'il faut souvent défendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de l'habitat? Bon, d'abord, on peut dire que aux indépendances, la plupart des États, quand ils ont eu une politique urbaine, ce qui n'était pas toujours le cas, ont finalement reproduit les principes exogènes de l'urbanisme colonial. Et cet urbanisme colonial, j'aime bien ce terme, c'était surtout un urbanisme de statut. C'est-à-dire à chaque statut, une place dans la ville. Donc on avait un urbanisme de plan avec une division sociale de l'espace urbain, qui était exacerbé évidemment, enfin on y reviendra, sous l'apartheid, là, avec une institutionnalisation en quelque sorte de la ville racialisée. Alors, les États indépendants ont repris, ont apporté quelques retouches, finalement, à cet urbanisme de plan, mais ça a développé des fragments de modernité dans certains centres-villes, ça a un peu complexifié les tissus urbains avec les politiques de logement social, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais finalement, ça a exclu le plus grand nombre. Et la réponse du plus grand nombre, alors, retour à Kinshasa, la réponse du plus grand nombre, aux exclusions de fait ou de droit, la réponse, ça a été le développement très rapide d'une ville parallèle, une ville illégale, illégale certes, mais en même temps moderne. Pourquoi ? Parce que l'accès... Alors, l'archétype, c'est Kinshasa. Hein. Vous avez tout ce qui est en vert clair, les trams autoconstruites, l'habitat précaire, c'est ce dont je suis en train de parler. Et vous voyez, c'est 80%, peut-être même 90% de la superficie urbanisée. Bon, mais en même temps, l'accès au sol a été réglé par des systèmes fonciers hybrides, c'est-à-dire qu'on a à la fois utilisé des éléments de la légalité, mais en même temps, on a aussi utilisé, en les combinant, des éléments des pratiques coutumières, des droits coutumiers. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que jusqu'aux années, ça c'est Kigali, la capitale du Rwanda, jusqu'aux années 1970, la majorité du bâti précaire illégal était en dur. Et vous voyez ici, vous avez sur la photo là, de Kigali, vous avez des logements en dur qui jouxent des tours, justement, dont je parlais tout à l'heure. Alors, entre les deux, les États et les bailleurs de fonds, bah, ils ont louvoyé entre des politiques de laisser-faire, c'était le cas au l'ex-Zaïre, maintenant RDC, ou bien par les destructions systématiques, ce qu'on appelle les déguerpissements en Afrique de l'Ouest, où là, ce qu'un collègue de l'IRD, Philippe Héringer, appelait l'urbanisme du bulldozer. Bon, et puis finalement, on en est venu à des accommodements, et vous avez ici la restructuration d'Elmina, qui est un quartier de Nouakchott, où vous voyez que c'est un ancien bidonville, j'aime pas beaucoup ce terme inventé à Casablanca, mais peu importe, un habitat précaire qui est restructuré, c'est-à-dire on commence par tracer une voirie, et puis ensuite on va faire passer les réseaux le long de la voirie, et puis ensuite on va utiliser des systèmes pour légaliser la tenure du sol, et au fur et à mesure on pense que progressivement on va tendre vers les normes de la modernité. Ensuite on a ouvert l'offre aussi avec les parcelles assainies de la Banque mondiale, dont un des grands exemples est à Tunis, pour changer d'exemple. Et puis toutes les solutions, il y a deux pays qui ont utilisé absolument toutes les solutions intermédiaires, c'est la Zambie, qui est un véritable laboratoire. C'est bon, vous m'entendez ? Bon. La Zambie, qui est un véritable laboratoire urbain, et puis aussi la Côte d'Ivoire. Et donc du coup, on est passé, vous voyez, de l'urbanisme de plan à l'urbanisme de projet. Ensuite, maintenant, on est entré dans la gouvernance urbaine, l'urbanisme stratégique. Mais finalement, tout ça, on a évolué, mais ça n'a pas réglé fondamentalement les problèmes, parce qu'il y a le sous-équipement est généralisé, et puis surtout, dans les quartiers anciens, il y a une très grande dégradation. On a parlé d'une crise des médinas dans les villes d'Afrique du Nord, et puis, ça, retour à Soweto, le développement surtout... De slums, comme dit ONU Habitat, dont le siège est à Nairobi, c'est-à-dire d'habitat, soit de baraques, soit avec des tôles. Donc, comme tout ça se fait en même temps avec un retrait de l'État et une financiarisation internationale du marché immobilier, bah, ça conduit de plus en plus à l'atomisation gestionnaire, ça conduit à l'isolement spatial des pauvres, ça conduit à l'enfermement des plus riches et parfois à la fragmentation, terme que vous avez utilisé tout à l'heure, ce qui veut dire que ben, là aussi, il faut absolument repenser l'urbanisme, repenser le savoir-faire la ville sur la base d'une combinaison entre le savoir-faire des citadins et des politiques publiques qui sont tournées vers la ville pour tous. Donc là, effectivement, on a un collègue sénégalais qui s'appelle Sergei, là, qui maintenant travaille à ENDA et qui plaide pour une nouvelle utopie urbaine, un nouvel acte créateur en quelque sorte. Il faut réinventer. On arrive avec un défi tel qu'il faut maintenant réinventer la ville africaine. Alors, sur le deuxième point, l'autre élément important, ça rejoint la question économique, l'autre point important, c'est le poids considérable de l'informel et la question du rôle de la ville dans le développement économique. Alors ça, c'est une question essentielle, parce que, sauf cas très exceptionnel, l'Afrique du Sud, évidemment, l'ancien Katanga, enfin l'actuel Katanga, qui était en même temps l'ancien, c'est-à-dire l'arc du cuivre, qui va du sud-est de la RDC jusqu'au nord de la Zambie, bon, plus des complexes miniers, à part ces cas-là, c'est vrai qu'il y a très peu de rapports entre industrialisation et urbanisation. Et donc, vous avez sous les yeux l'informel non agricole, c'est-à-dire les emplois dans les petits métiers, enfin pas plus petits d'ailleurs, c'est pas un bon vocabulaire, mais l'artisanat et le petit commerce sont des emplois qui sont entre, ça représente 50, vous le voyez dans certains, au Kenya 77%, en Égypte plus de 50%, au Rwanda plus de 73%, et vous voyez la différence entre l'Afrique du Sud, Maurice par exemple. Bon, donc on se retrouve avec des poids considérables de l'informel. Alors, jusqu'au début des années 80, jusqu'aux ajustements structurels dont a parlé Géraud, il y avait une articulation, enfin il y avait des liens assez forts entre le formel et l'informel, sauf que ces liens assez forts ont été complètement distendus par les politiques d'ajustement structurel. Les marchés, le marché de l'emploi salarié s'est fermé, à la fois dans la fonction publique et avec la désindustrialisation du continent africain. Et du coup, l'accès aux ressources est devenu extrêmement difficile. Donc il y a eu un repli, voilà, ça c'est la gare routière et le marché Accra, capitale du Ghana. Il y a eu un repli sur les petites activités commerçantes qui a été extrêmement généralisé dans toutes les villes africaines. Et alors j'en reviens à ce que disait Géraud, le problème c'est que ce repli sur les activités marchandes a aiguisé les luttes pour l'accès aux ressources. Et comme on est, comme l'a dit Géraud, dans un contexte où les jeunes sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail, ça s'est traduit par des hostilités, puis des violences entre les nationaux et les étrangers, puis ensuite, alors, grand thème aussi entre les autochtones, qui se prétendent autochtones, et les allochtones, et comme on est toujours l'allochtone de l'autre, c'est sans fin. Et donc, il y a des problèmes considérables, y compris pour ceux qui se sont repliés sur l'agriculture vivrière intra-urbaine ou périurbaine, où là on retrouve les conflits fonciers qui sont liés à des problèmes d'accès à la terre et de mise en valeur. Alors c'est assez, en Côte d'Ivoire par exemple, les bas-fonds étaient rarement mis en valeur avant, et là il y a une frénésie de mise en valeur de bas-fonds avec une lutte féroce entre les autochtones et les allochtones. Alors est-ce que le cycle de croissance a inversé ça? Je dirais, côté positif, le cycle de croissance dont j'ai parlé tout à l'heure, le côté positif, c'est l'émergence de nouvelles couches ou classes moyennes. Alors vous voyez, vous avez sous les yeux deux modes de calcul, hein, selon le revenu ou selon la consommation. Mais bon, ça a quand même, le cycle de croissance a redistribué un peu la donne sociale à l'intérieur des villes. Ce qui, pour le problème d'habitat, est important. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est que les nouvelles technologies de l'information, enfin de communication, ont été réappropriées par l'informel. On sait faire des imprimantes 3D, des téléphones portables, sans avoir besoin de les importer de Singapour, de Chine ou de Dubaï. Et puis surtout, pendant le cycle de croissance, il y a un afflux d'investissements directs étrangers vers les infrastructures urbaines. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que la demande des classes moyennes a souvent été fournie en quelque sorte par des importations, parce que l'informel a quand même des limites techniques, hein, ça c'est clair. Ensuite, le nouveau marché du travail formel d'économie numérique est inaccessible aux citadins les plus pauvres, et en particulier aux jeunes, dont parlait Géraud. Et puis surtout, les flux d'IDE, c'est vrai, ont revalorisé les infrastructures, mais surtout développé des îlots d'économie globale. Alors les collègues anglophones, « glocal space », ils disent, le glocal, alors c'est un terme affreux, mais c'est très significatif, ça veut dire qu'on a des malls, on a des fragments de high-tech, mais emmurés, et qui sont complètement isolés du reste de la ville, donc ça va aussi dans le sens de la fragmentation dont vous parliez, et donc on s'interroge beaucoup là sur la capacité de l'informel à porter en quelque sorte la croissance urbaine. Et puis le dernier point, alors je change d'échelle, c'est le défi de l'impulsion du développement aux échelles nationales ou supranationales. Alors, deux remarques pour commencer, et puis après je bouclerai. La première, c'est qu'il existe déjà des articulations d'échelle efficaces entre les villes et les campagnes. D'abord, vous avez une image, là, une photo emblématique du Kenya, où un agriculteur regarde sur son portable les cours des produits à Nairobi pour savoir s'il faut les expédier ou pas. C'est quand même assez fabuleux, je trouve. Et donc, ça veut dire qu'il y a, déjà des réseaux marchands, il y a déjà des liens très, très importants entre les villes et les campagnes. Et donc, comme dit, j'ai parlé de Jean-Louis Scheller tout à l'heure, le vivrier marchand, c'est une de son expression, c'est quand même un moyen aussi de transformer les campagnes. Donc, on a un facteur d'entraînement par les marchés alimentaires urbains, on a un facteur d'entraînement aussi de dynamisation des campagnes et des circuits qui sont souples et réactifs. Et puis, bon, ça, je passe là-dessus, c'est un exemple qui est extrêmement connu, c'est que les frontières sont très travaillées. La frontière du Nigeria, c'est non seulement poreuse, mais alors il y a des circuits de part et d'autre qui s'appuient sur des villes petites et moyennes, lesquelles sont relayées par des circuits marchands avec les campagnes. Donc, là, il se passe quelque chose. Il y a des processus de fabrication territoriale qui sont appuyés sur les villes à ces échelles-là. En même temps, je boucle sur la question que vous posiez au début, il y a un problème majeur, c'est celui de la métropolisation. Dans la régionalisation compétitive, justement. Pourquoi ? Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la métropolisation en Afrique est accompagnée d'inégalités territoriales croissantes. Au Maroc, par exemple, je parlais de la ligne à grande vitesse. Bah, je suis passé cet été à Tanger, j'étais époustouflé par Tanger Med, le nouveau port de Tanger, c'est incroyable. L'usine Renault à Melilla, c'est incroyable, c'est sidérant. Et quand on voit Casablanca, il faut 2 heures en voiture pour sortir de Casablanca. Donc il y a l'axe Casablanca-Tanger, qui est avec les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Et quand on va dans le Rif après, il ne faut pas s'étonner de la révolte du Rif. Alors on a l'impression qu'on change de pays, quoi, complètement. Donc là, il y a des inégalités qui sont considérables. Et je ne parle pas de l'Afrique du Sud, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Donc la question de l'ancrage de métropoles mondialisées dans les territoires nationaux, c'est-à-dire du global au local, c'est une question non résolue et qui reste posée. Alors, comment faire pour répondre à cette question et que les systèmes de ville africains soient à la fois connectés au monde et facteurs de développement en Afrique? Et là, c'est intéressant, je reviens à ce que vous disiez, il y a peut-être des choses à chercher intéressantes. Alors, d'une part, du côté de... le long du golfe de Guinée, entre Abidjan, Accra et Lagos, où on voit apparaître on ne sait pas comment appeler ça, une espèce de continuum ruralo-urbain. Alors, ce n'est pas des sakota, comme on dit en Asie, en Indonésie. Hein. C'est une imbrication ville-campagne, où à la fois des grandes villes, des petites villes, des bourgs. Ça, c'est très important, l'échelle des bourgs. Et donc, bah, il est en train de se fabriquer quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs au monde, qu'on ne sait pas nommer. D'ailleurs, c'est intéressant, si on ne sait pas l'appeler. Voilà. Et là, il y a peut-être des éléments africains de structuration régionale. Et puis le deuxième exemple, c'est le Kenya, où là, on a des travaux récents là, qui s'interrogent sur la notion de conurbation au Kenya. Vous voyez, autour de Nairobi et autour de Kisumu, là, dans l'ouest du Kenya, c'est pas seulement un étalement simple de grandes villes, mais on voit aussi qu'il y a des petites villes qui participent. Enfin, il est en train de se passer quelque chose, là, que Bernard Callas, un collègue de Bordeaux, a beaucoup étudié, sur des formes peut-être de périmétropolisation à l'africaine au Kenya. Cela dit, et je termine là-dessus, ça ne dispense pas quand même, de choix politiques fondamentaux, c'est-à-dire soit on a des politiques urbaines qui font confiance au ruissellement, au fameux trickle-down, et là, les forces du marché sont plus importantes. Soit on pense qu'il faut des politiques publiques de régionalisation, et alors là, bah, ça veut dire qu'il faut repenser aussi les politiques d'aménagement du territoire au sein duquel les villes aussi ont un rôle à jouer et qu'il faut peut-être revoir en tirant parti de ces dynamismes autochtones. Voilà.
On va peut-être prendre quelques questions à ce point de la table ronde.
Je vais parler assez fort.
Oui.
J'ai une discussion avec Mathieu Durand au sujet de famille familiale. Le sujet, vous disiez à Mathieu, on va parler un peu de ne pas soigner. Alors, je vais répondre à tout le monde demander si tu occupais aussi du planning familial. Et on essaie, on fait au mieux. Est-ce qu'il y a dans votre ONG qui s'occupe un petit peu du planning familial, c'est quand même.
Oui, il faut prendre les micros hein, pour poser les questions, parce qu'on vous entend mal, mais on a bien compris hein, cette question du planning familial par rapport à la croissance démographique et les ONG.
Oui, ce qu'on peut dire, bon, il y a des ONG qui interviennent sur le planning familial. Ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est qu'il y a une très grande diversité de politiques nationales sur ces sujets-là. Il y a des pays où des politiques de population, donc fondées notamment sur le planning familial, ont été mises en place de façon précoce, comme le Ghana ou le Kenya par exemple. Et vous avez d'autres pays dans lesquels soit ces politiques sont tabous, soit elles sont extrêmement discrètes pour des raisons politico-religieuses, de sensibilité religieuse et notamment de très forte opposition des différentes religions, aussi bien chrétiennes que musulmanes, à ce type de politique. Donc c'est des sujets qui sont sensibles. Ce qu'il faut avoir en tête, alors moi je pense que les politiques de population sont un élément très important, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui fait diminuer la fécondité, c'est jamais une politique de population à elle seule ne sert finalement pas à grand chose, c'est toujours un ensemble de transformations sociales et démographiques qui permettent d'expliquer la baisse de la fécondité. Et donc ça va avec l'urbanisation, ça va bien sûr avec la scolarisation des filles, ça va avec la création d'un marché du travail, avec l'aspiration de classe moyenne à consommer mieux, à investir dans l'éducation des enfants, mais quand on veut investir dans l'éducation des enfants et que ça coûte cher, eh ben, on a plus de chances si on en a moins que si on en a beaucoup, avec l'augmentation du coût des logements dans les grandes métropoles. Donc vous voyez, c'est cet ensemble de transformations qui sont quand même assez liées à l'urbanisation, qui sont favorables à la baisse de la fécondité. Et les politiques de population, c'est un aspect qui peut être accélérateur, qui peut jouer un rôle important, mais ça ne suffit pas. Parce que par exemple, au Kenya ou au Ghana, ces politiques de population, elles ont été mises en place quasiment dès les années 70, hein, à ma connaissance. Et c'est seulement dans un passé récent que les indices de fécondité ont fléchi de façon assez nette dans ces pays-là. Ça montre vraiment la forte inertie, finalement, des pratiques démographiques.
On va prendre une deuxième question, puis ensuite on passera au point suivant. Oui, madame. Y a-t-il un micro? Alors, madame, si vous avez un micro. Il n'y a plus de micro.
Bon, il y a un tapis.
Je vais je reformulerai votre question pour la salle.
Allez-y,
on va parler
pendant. D'accord. Avec un groupe d'intellectuels, au chômage, que ce soit des solidarités, que ce soit des idéales, que ce soit des visages idéales, nous avons réfléchi dans le temps, nous avons alors formé une coopérative intégrale à la radio-biologie. Et nous l'avons implanté en guide des visages, parce que c'est une visage. Nous avons une mission reçue dans un village qui s'appelle Paralika, qui est formé de 350 agriculteurs et une petite ville qui nous ont attribué de la terre dans laquelle nous allons créer une sorte d'éco-village où nous allons nous accompagner des transformations, des réseaux de communication, des grands outils.
Madame, oui, donc c'est un témoignage hein, sur les acteurs extérieurs et les coopératives pilotées par des acteurs extérieurs sur l'entraînement, sur le développement.
Oui, juste un mot, c'est important aussi. Ce que vous dites est important, l'engagement à la base, dans la société dite civile, appelons-la comme ça. Et je reviens à ce que disait Géraud, c'est très important sur l'évolution du statut de la femme dans les sociétés africaines. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le combat est loin d'être gagné. Quand on voit ce qui se passe au Maroc, par exemple, aujourd'hui.
Madame là-haut, s'il vous plaît.
Je vous remercie. Je remercie d'abord les conférenciers, M. Jérôme Magrin, qui fut mon professeur à l'Université de Saint-Louis, de géographie, et mon directeur de mémoire également. Donc j'avais deux questions. Concernant la transition, le dividende démographique, mais également sur les questions urbaines. Donc, concernant le dividende, le professeur Magret a tantôt parlé, a tantôt dit que c'était une solution au problème des Africains. Nous savons que dans des pays comme le Niger, il est très difficile donc d'atteindre ce dividende démographique. Donc je voudrais savoir que faut-il réellement faire pour avoir ce dividende démographique dans ces pays. Pour la deuxième question, c'est par rapport aux problèmes urbains. Effectivement, lors de l'intervention du professeur, il a parlé de la croissance urbaine dans les pays africains. On a aussi parlé du problème de l'accaparement, non, de l'étalement urbain. Et pourtant, les États ont quand même des outils de planification, urbaine. Et est-ce à dire que ces outils ne sont pas très efficaces? Tantôt, vous avez dit qu'il faudra repenser l'aménagement du territoire. Et donc, dans ce cadre, comment faire pour avoir des outils vraiment adaptés afin de régler, pas régler définitivement, mais trouver quand même des solutions aux problèmes urbains? Je vous remercie.
Bon, Marie, merci pour la bonne surprise de te revoir après toutes ces années. Alors, pour répondre à ta question, donc je ne sais pas si le dividende démographique est une solution, mais c'est une fenêtre d'opportunité dans la durée de ce processus de transition démographique qui se révèle favorable au développement à condition que l'on parvienne à trouver des emplois, c'est-à-dire que l'économie arrive finalement à proposer des emplois aux nombreux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays comme le Niger ? J'ai pas de solution magique, mais je reviens à ce que je disais précédemment. Je pense que c'est un ensemble de transformations de la société et de l'économie qui peut permettre l'accélération de la baisse de la fécondité. Donc peut-être des politiques de population, mais aussi des politiques d'éducation, une urbanisation qui s'accélérerait dans des conditions de fourniture de services publics, de biens publics qui soient acceptables, hein, qui permettent des améliorations en termes de santé, d'éducation, des filles notamment, qu'il y ait du travail pour les femmes. Donc toutes ces évolutions de la société permettent de réduire la fécondité. Mais évidemment, c'est... Ça n'est pas simple, hein, il n'y a pas de recette qui permette d'y arriver. Je termine, ça fera le lien avec ce qu'on dira tout à l'heure, c'est qu'une des réponses se situe quand même peut-être dans les choix qui seront faits sur l'investissement des rentes tirées des ressources minières, hein, des ressources minérales, parce qu'on est dans des pays, le Niger a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des ressources, et un des enjeux, c'est de savoir comment on investit ces ressources.
Un mot quand même sur l'urbain. En ce qui concerne la planification urbaine, ça ne marche pas parce qu'elle est inappliquée ou inapplicable. Inappliquée, c'est le cas de l'ex-Zaïre, la RDC, inapplicable parce qu'on voit bien que tous les principes et les fondements sont totalement inadaptés, d'une part à la rapidité de la croissance urbaine, à la rapidité de l'étalement et aussi au mode d'habitat des populations. Comme vous êtes saint-louisienne, vous devez le savoir aussi bien que moi. Alors maintenant, vers quoi faudrait-il tendre ? Tout ce qu'on voit depuis quelques années, c'est premièrement tendre vers l'association, enfin, ce qu'on appelle l'urbanisme partagé ou l'urbanisme coopératif. L'urbanisme partagé, ça veut dire que faut pas seulement les décisions ne doivent pas seulement être prises en haut dans les bureaux des ministres ou par les bureaucrates, mais qu'il faut absolument que toute décision soit négociée, l'urbanisme négocié, avec les populations. Ça, c'est la première chose. Et ça peut donner de bons résultats. Je donne un seul exemple au Bénin, pour changer de pays. Il y avait un énorme problème de cadastrage. Et donc, au lieu d'appliquer le cadastrage, le transférer du nord vers le sud, comme il existe en France, on a inventé un mode très particulier d'inventaire, qu'on appelle ça l'inventaire foncier urbain, qui a été fait avec les citadins, où on essaye de savoir qui est responsable de la tenure du sol, et où on a parfois, et c'est le cas à Accra aussi, conservé les prérogatives des chefs coutumiers, tout en encadrant ses prérogatives. Et donc c'est dans ces solutions négociées qu'il faut chercher qu'il faut chercher les voies. Et en même temps, et j'ajoute pour terminer, que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, c'est que les solutions négociées à l'échelle des quartiers n'ont de chance de réussir, et c'est la même chose que pour la transition démographique et le statut de la femme, n'ont de chance de réussir que si elles sont articulées à des politiques globales, et en particulier à des politiques urbaines à l'échelle de l'agglomération urbaine. L'exemple le plus éclairant, c'est la collecte des déchets. Il y a dans toutes les villes africaines des milliers d'associations qui se sont mobilisées pour collecter les déchets. Il y a des milliers d'associations qui gèrent des bacs de dépôt des déchets. Et puis après, il n'y a aucun camion qui vient les chercher, il n'y a aucune usine de traitement, et donc du coup, on ne sait pas quoi faire des déchets, et donc on les brûle, on les enfouit. Et ça, c'est un exemple de dysfonctionnement d'échelle. Donc il faut absolument articuler les échelles intra-urbaines et... si vous voulez, à l'échelle urbaine en général, il faut négocier, il faut aller vers un urbanisme négocié. Mais ça suppose une politique publique partagée.
Merci pour ces questions. On va passer au point, à la thématique suivante autour de l'insertion, des formes d'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, des acteurs internationaux, pour ensuite en venir aux effets sur les ensembles régionaux africains.
Je crois qu'on l'a déjà bien abordé ce matin, mais je pense qu'il est peut-être nécessaire d'y revenir parce qu'on est face à des enjeux quand même très lourds et d'avenir qui conditionnent en partie les équilibres mondiaux aujourd'hui. Les modalités d'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, on a vu à la fois la permanence des structures multiséculaires de liens de dépendance et en même temps les recherches d'autonomie, l'intervention de nouveaux acteurs aussi. On a parlé de la Chine, face à l'érosion des zones d'influence ou des possibilités des anciennes puissances occidentales et coloniales. On a vu aussi les éléments de basculement, je pense en particulier à la nouvelle route de la soie et au drainage de l'Afrique orientale par les capitaux chinois. Donc c'est peut-être trois éléments. D'abord une réflexion générale un peu de longue durée sur six clés dépendance. Comment revenir et repenser un peu ces logiques d'articulation. On reste souvent quand même face à l'Afrique, très souvent sur des logiques de courte durée, conjoncturelles, alors qu'il nous semble que, y compris avec les élèves, l'articulation à la géohistoire et sur des cycles d'analyse de longue durée paraissent particulièrement importants. Le deuxième élément, c'est la faiblesse des organisations internes, avec la question de l'éclatement des cohérences, des cohérences territoriales et des projets sociaux et politiques. Troisième élément, c'est le trafic illicite et criminalisation, c'est-à-dire, c'est ce que tu disais, Alain, il n'y a pas plus de mondialisé aujourd'hui ou d'inséré dans l'espace mondial que le Sahara. Et ça serait un des très beaux thèmes qui ont été mis au concours, aussi bien l'agrégation qu'au CAPES, c'est Sahara et Sahel. On est là sur des dimensions extrêmement importantes. Et puis peut-être le dernier élément aussi, c'est les questions de sécurité et de développement quand même, qui me paraissent particulièrement brûlantes et qui méritent sans doute là aussi quelques éléments d'analyse.
Merci. Je voudrais commencer finalement par essayer d'interpréter avec vous la signification de ces nouveaux partenariats qui sont apparus en Afrique depuis une quinzaine d'années, qui sont indissociables du contexte d'émergence au niveau global d'un certain nombre de pays. Alors c'est vrai que l'émergence, c'est une notion floue, mais souvent on dit que c'est une dynamique d'affirmation économique et politique dans la mondialisation. Et bien il y a un certain nombre de ces acteurs qui ont des formes de présence importantes en Afrique et dont finalement la présence pose question. Ce qui est important de rappeler, c'est que on va parler des nouveaux partenaires, mais il faut quand même rappeler que les anciens partenaires sont toujours là. Je crois que c'est important. Les pays de l'Union européenne continuent à peser lourd dans les échanges commerciaux, par exemple avec l'Afrique, ce qui est représenté sur le schéma. Et dans certains secteurs, les pays émergents dont on va parler ont fortement concurrencé les anciens partenaires, notamment la Chine, mais il y a quand même des domaines où les pays occidentaux traditionnels, notamment l'exploitation pétrolière ou l'exploitation de l'uranium, des thématiques qui sont absolument stratégiques et centrales, les positions fortes restent tenues par les anciens pays occidentaux. Alors ce que je voudrais aborder en trois points, je ne suis pas la tradition d'Alain, Non, ce que je voudrais montrer d'abord, c'est la diversité hein, de ces formes de présence et d'interaction avec des partenaires extérieurs variés, voir ensuite leur côté, je dirais, positif sur la trajectoire de développement en Afrique, et puis après, leurs limites et leurs impacts plus questionnables et plus négatifs. Alors, ces investissements, donc, ces partenaires hein, sont variés. Le plus visible, le plus important, c'est évidemment la Chine, qui est ubiquiste finalement, qui intervient dans pratiquement tous les pays et dans de très nombreux secteurs. Souvent, en fait, ce qui permet de lire le rôle de ces pays, c'est ces pays arrivent à s'implanter en valorisant à la fois les atouts, les points, les secteurs phares de leur économie et des atouts culturels et politiques. Mais la Chine, il se trouve que son économie a beaucoup de points forts, donc on la retrouve dans beaucoup de secteurs. Alors on voit les présences chinoises hein, qui sont nombreuses dans les pays où il y a des ressources naturelles à extraire, pays pétroliers, Nigeria, Soudan, Algérie, Angola, des pays miniers, hein, comme par exemple la Zambie, la République démocratique du Congo. Mais ce que les acteurs chinois cherchent en Afrique, ce sont aussi des marchés, donc on les trouve aussi sur des marchés d'infrastructures, même dans des pays qui n'ont pas énormément de ressources naturelles. Et parfois, ils sont intéressés par les deux, c'est-à-dire à la fois les marchés des ressources naturelles, hein, en Afrique du Sud, au Nigeria. Les facteurs d'implantation de ces acteurs chinois, ça a été souvent, c'est partagé aussi par d'autres comme l'Inde, mais c'est très fort en Chine, la non-implication dans les affaires politiques intérieures. Donc on ne se positionne pas sur les questions de démocratie ou autre, à la différence des partenaires occidentaux classiques, souvent présentés comme étant très interventionnistes. Il y a une autre forme assez connue, hein, ce qu'on appelle les package deals, donc les accords globaux, qui associent en fait de l'aide publique au développement avec des montages de prêts d'organismes de crédit chinois qui permettent d'exploiter des ressources naturelles au bénéfice d'acteurs chinois. Hein, donc d'un côté, on va financer des routes, des stades, des chemins de fer, éventuellement des périmètres agricoles, etc. dans le pays, et de l'autre, on va avoir des droits d'exploitation qui vont dans le cadre de projets qui impliquent des acteurs chinois principalement. Deuxième acteur, qui est peut-être moins visible, mais qui est assez important aussi, c'est l'Inde, qui valorise souvent son influence au sein du groupe des pays non alignés, qui est souvent présent, les acteurs indiens sont très présents là où il y avait d'anciennes diasporas indiennes, donc notamment en Afrique du Sud et en Afrique orientale. Et on les trouve dans un certain nombre de secteurs, ils sont très forts dans certains secteurs comme l'automobile ou les transports en général, hein, les motos, la fabrication de, parfois en Afrique, de minibus. On les trouve aussi dans les mines, avec Mittal par exemple, ou les phosphates, et beaucoup dans le commerce aussi. Le Brésil est présent surtout dans les pays lusophones, pas uniquement, mais beaucoup, hein, Mozambique, Angola. Et il investit dans ce que sont les points forts du pays, alors le secteur pétrolier, l'agriculture, beaucoup, les agrocarburants. En exportant finalement, dans un pays comme le Mozambique, on voit que le Brésil exporte le dualisme de son agriculture, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des modèles d'agro-business avec des grandes firmes brésiliennes qui s'implantent, et en même temps vous avez la coopération publique brésilienne qui finance des appuis à l'agriculture familiale, un petit peu comme ça se passe au Brésil finalement, hein, avec une agriculture totalement dualiste, à la fois capitaliste et sociale, avec une fonction sociale. La Turquie est un acteur moins visible, mais qui est assez présent aussi. Alors, la géographie des implantations turques en Afrique, elle tient en partie aux héritages historiques du temps long, hein, aux anciennes présences dans le cadre de l'Empire ottoman. Alors il y a la proximité géographique avec la Turquie et puis les liens à la fois politiques, religieux, historiques qui se sont construits. Donc on voit beaucoup d'aide au Maghreb, au Mashrek et puis en Afrique orientale. Mais une présence qui s'est diversifiée et qui s'est étendue à un grand nombre de pays, plutôt des pays musulmans ou à forte communauté musulmane, mais pas exclusivement. Alors on voit aussi des pays comme Singapour ou la Malaisie, hein, qui ne sont pas très visibles politiquement, on n'en parle pas beaucoup, mais qui sont très implantés sur certains secteurs, par exemple l'huile de palme, hein, dans les investissements dans la filière de l'huile de palme dans le golfe de Guinée, avec des... Ce qui intéresse ces investisseurs, bah, c'est de trouver moins de règles, moins de contraintes environnementales qu'il y en a aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Et puis il y a les pays africains, et deux principalement, hein, les deux puissances africaines dont Alain a parlé tout à l'heure. L'Afrique du Sud, qui a des relations de voisinage très fortes hein, dans son arrière-pays immédiat, mais qui a aussi une influence économique forte, je dirais préférentiellement dans les pays de langue anglaise, avec des chaînes de supermarchés, par exemple sud-africains, ou des réseaux de téléphonie mobile sud-africaine qui sont très implantés dans les pays de langue anglaise, même si c'est loin de l'Afrique du Sud, jusqu'au Nigeria ou au Ghana, par exemple. Et les entreprises africaines sont aussi très présentes dans les secteurs forts de l'économie sud-africaine. La sécurité, hein, une violence, donc on vend des systèmes de sécurité clés en main dans les villes, à Accra, à Lagos, etc. C'est des sociétés il y a un certain nombre de sociétés de sécurité sud-africaines ou qui s'inspirent du modèle sud-africain, et aussi dans les mines. On a parlé aussi du Maroc, hein, qui est très offensif sur la scène, la scène africaine depuis très... Enfin, c'est très récent. Hein, j'ai pas suffisamment étudié la question pour savoir d'où ça vient, mais ça fait 2-3 ans qu'il y a un discours et une stratégie très offensive du Maroc, dont on a l'impression qu'il découvre brutalement que l'Afrique, c'est son hinterland économique. Hein, jusque-là, on se tournait vers l'Europe. Et là, on diversifie les ancrages. Et donc, ça se manifeste le retour dans l'Union africaine en 2016, la demande d'adhésion à la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en 2017, et des investissements privés dans le secteur aérien, dans les banques, dans les engrais. Hein, par exemple, la plus grande entreprise marocaine, l'Office chérifien des phosphates, hein, qui est un monstre, un peu l'équivalent d'une compagnie pétrolière publique dans d'autres pays, qui a un projet très ambitieux, OCP Africa, qui est un projet de révolution verte, d'accompagnement d'une révolution verte en Afrique, en réponse aux besoins alimentaires, changement climatique, etc., fondé bien sûr sur la vente d'engrais marocains, mais avec un dispositif qui se veut assez novateur, même s'il n'est pas encore mis en place. J'ai pas eu des retours d'expérience concrets, c'est très, très récent, hein, qui serait d'accompagner les producteurs sur des systèmes hybrides, articulant public et privé, hein, dans l'encadrement de la production. Alors, il y a une très grande diversité d'acteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on trouve dans ces acteurs des pays émergents, ça va des firmes multinationales indiennes comme Tata, privées, ou des firmes publiques chinoises, dans les travaux publics, le pétrole, etc., jusqu'à de très nombreuses PME. Il y aurait 2000 entreprises chinoises en Afrique, mais c'est un chiffre qu'on trouve dans la littérature, mais en fait, personne n'a aucune idée. Hein, même les autorités chinoises ont du mal à suivre leurs ressortissants sur le continent. Effectivement, il y a de nombreux Chinois qui sont présents sur le continent, qui sont souvent venus dans le cadre des projets publics, dans les grands projets d'infrastructures publiques. Et quand le projet s'est terminé, on a fini de construire la ligne de chemin de fer, eh bien, ils sont restés comme restaurateurs. Alors parfois comme petits commerçants qui peuvent concurrencer des commerçants africains, mais parfois aussi en ouvrant des cabinets de médecine chinoise, en ouvrant des restaurants, et donc avec des activités finalement qui peuvent être utiles du point de vue africain. Alors, je vais arriver à mon deuxième point pour montrer que finalement, je ne vais peut-être pas vous montrer dans le détail, mais que ces investissements et ces nouvelles relations, elles contribuent à ce contexte ouvert aux facteurs positifs du contexte qu'évoquait Alain Dubresson. Ça a été des investissements massifs dans les secteurs des infrastructures où il y avait de gros besoins en Afrique, notamment dans le domaine ferroviaire. Dans certains pays, c'est aussi les routes. Il y a énormément d'infrastructures qui sont sorties de terre grâce à l'aide chinoise et aux capitaux chinois. L'aide occidentale n'était pas capable de répondre aussi vite aux besoins. Il y a un autre élément, c'est que finalement, cette présence de nouveaux partenaires, ça ouvre l'éventail des possibles pour les gouvernements africains. Les gouvernements africains ne sont plus dans un tête-à-tête avec les institutions de Bretton Woods, où on doit suivre la doxa néolibérale. Ils ont d'autres options, et donc ça renforce leur capacité à penser à nouveau l'aménagement ou le développement de leur territoire. Il y a de nouveaux projets qui sont devenus possibles, et dans cette période récente, ces 15 dernières années, après les 20 ans d'ajustement structurel, où il n'y avait plus de politique qui était pensée par les dirigeants africains, quasiment, hein, c'était les bailleurs de fonds internationaux qui tenaient les cordons de la bourse, et bien depuis 15-20 ans, il y a un certain nombre de pays où il y a des projets urbains, des projets d'aménagement du territoire qui sont pensés nationalement, notamment parce qu'il y a des financements chinois, brésiliens, indiens, et occidentaux aussi, hein, mais un peu d'émulation n'a pas forcément desservi les pays africains. Donc les nouveaux secteurs économiques dont on a parlé ont été parfois servis par la diffusion, la commercialisation de produits qui viennent de Chine ou d'Inde. C'est des produits à bas coût qui sont accessibles pour des citadins africains. Donc là aussi, dans ce commerce sud-sud, il y a peut-être de la concurrence, mais il y a aussi la possibilité de consommer, quand on parlait des classes moyennes, il y a la possibilité de consommer un certain nombre de choses. Les motos, par exemple, la consommation de motos chinoises ou indiennes a explosé. En milieu rural, ça change complètement la vie, hein, la façon de vivre l'espace. Ça connecte beaucoup mieux les espaces reculés avec les villes, avec les marchés. Et tout ça parce que les motos japonaises étaient chères, et les motos indiennes et chinoises sont 3 ou 4 fois moins chères. Donc là, ça a été une véritable révolution. Il y a un article de Christian Seignobos sur la révolution de la moto au Nord Cameroun qui est absolument passionnant. On pourrait parler aussi de la diffusion des tricycles, les autorickshaws indiens, hein, qui s'est diffusé en Égypte, au Soudan, au Congo, et qui sont, euh, qui sont adaptées aux besoins de citadins africains dans des zones périphériques qui ne sont pas desservies par le transport en commun. Ça peut être réparé par le secteur informel, donc on peut bricoler beaucoup plus que sur une Peugeot dernier cri. Hein. Voilà, ce sont des produits qui ont été utiles finalement dans la nouvelle façon de vivre les rapports à l'espace. Alors, sur les impacts négatifs, car il y en a aussi un certain nombre, ils ont été beaucoup dénoncés dans les médias, mais souvent à juste titre, ou dans les sociétés civiles, hein, ou les oppositions africaines. Donc on a dénoncé des contrats souvent léonins, dans le cadre de ces package deals avec les entreprises chinoises, donc des contrats très favorables aux Chinois et les moins aux pays africains, pour exploiter les ressources minières. On considère aussi que les entreprises chinoises ou indiennes ou qui viennent des pays émergents ont des exigences en termes de gestion environnementale et sociale qui sont très inférieures à celles de nos concurrents occidentaux. Donc il y aurait une sorte de course vers le bas, hein, qui serait alimentée par ces acteurs venus de pays émergents. Et parfois, il y a eu la Chine a accepté de financer des barrages que la Banque mondiale, par exemple, ne voulait pas financer, parce qu'il y avait trop d'impacts environnementaux, trop de déplacements de population, hein, notamment le Meroe Dam au Soudan, ou le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne en Éthiopie. La Banque mondiale avait refusé, et ce sont les Chinois qui l'ont construit, pour le meilleur, et puis pour aussi tous les impacts négatifs qu'ils peuvent avoir. Et puis, alors, ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est que ces acteurs des pays émergents, et en particulier les Chinois, sont impliqués, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont impliqués dans l'économie criminelle qui se développe en Afrique, dans l'économie de pillage. Alors, bon, le cas de la commercialisation du rhinocéros et de la disparition du rhinocéros est bien connu. Un cas moins, les éléphants, les rhinocéros, c'est très connu. Un cas moins connu, c'est celui, mais peut-être plus significatif, au Sahel, c'est la commercialisation massive d'ânes. J'ai vu, j'aurais dû mettre une photo, je n'ai pas pensé, à des troupeaux de milliers d'ânes, depuis 2 ou 3 ans, achetés par des acteurs chinois parce que la peau de l'âne sert à faire des médicaments finalement utilisés dans la médecine chinoise. Ils sont très demandés, le prix a explosé, on s'est rendu compte qu'il y avait des ânes pas chers que les éleveurs sahéliens étaient prêts. Alors, or les ânes au Sahel, ils avaient des fonctions importantes pour transporter les céréales, pour transporter l'eau, etc. Et donc, il y a une sorte de commercialisation massive, une sorte de prédation sur les ânes au Sahel, qui fait partie des impacts négatifs pas toujours connus. Il y avait déjà un article du Monde, je crois, sur le sujet quand même, de la présence chinoise. De manière générale, les acteurs ce sont souvent les acteurs chinois privés, les toutes petites entreprises ou les acteurs privés, qui pratiquent la corruption à grande échelle, notamment dans le secteur minier, dans le secteur extractif, et qui donc contribuent à ce qu'on dénonce, à juste titre, comme étant un pillage des ressources africaines. Pour terminer, juste peut-être le dernier point, la question industrielle, qui est une question majeure. Du point de vue industriel, ces nouveaux partenariats sont aussi ambivalents, parce que, dans un premier temps, les industries africaines, les embryons d'industries africaines ont été très fortement concurrencés par l'arrivée de produits asiatiques. Hein. Ça a été le cas en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria et en Afrique du Sud ou en Tunisie. Mais aujourd'hui, on arrive à un autre stade et là, on connecte avec la discussion sur le dividende démographique à un moment où, dans certains cas, dans certains pays, il y a des investissements industriels chinois ou indiens, mais les plus spectaculaires sont chinois, pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Il y avait un article d'un journal d'affaires américain, Bloomberg, qui disait « Et si l'Éthiopie devenait la Chine de la Chine ?» C'est-à-dire la nouvelle réserve de main-d'œuvre bon marché. Il y a depuis quelques années des investissements importants chinois dans le textile en Éthiopie, valorisant à la fois une main-d'œuvre bon marché abondante, un pays autoritaire stable, modèle chinois, des infrastructures améliorées avec des capitaux chinois, et un marché intérieur important, 100 millions d'habitants, donc un marché en croissance. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on est dans une continuité historique d'exploitation de l'Afrique par des acteurs extérieurs, les nouveaux partenaires venant s'ajouter aux anciens, ou est-ce qu'on a de nouveaux partenaires sud-sud qui permettent d'accélérer les processus d'émergence? Je pourrais dire les deux, d'une certaine manière, les deux. Et un des grands enjeux ici, c'est la capacité des gouvernements africains à concevoir des politiques de développement national, mais surtout être capable de négocier leurs relations avec leurs partenaires, à négocier des relations équilibrées, ce qui suppose des modes de gouvernement démocratique, ou en tout cas les formes d'équilibre dans les pays qui permettent d'éviter les formes les plus caricaturales de corruption, hein, et qui permettent que les contre-pouvoirs négocient et défendent les intérêts des pays face à ses partenaires. Voilà, donc toutes les interventions ne sont pas négatives, j'espère l'avoir montré.
Bien, et pour les 10 dernières minutes qui nous restent, on a vu arriver le message. Nous allons braquer la focale sur les ensembles régionaux. Et le premier ensemble régional, Jérôme Agrin, celui de l'Afrique de l'Ouest, prise en son sens large, incluant le Sahara, comment est-ce qu'on peut l'aborder ? Est-ce qu'on peut, dans la lignée de ce qu'évoquait Alain Dubresson tout à l'heure, c'est-à-dire la poursuite de la diversification des trajectoires, est-ce qu'on peut imaginer une Afrique de l'Ouest finalement très dissociée entre un golfe de Guinée qui suit les voies du développement à travers l'exemple que vous évoquiez hein, du continuum urbain et puis des développements des corridors, et un Sahel qui décroche et qui devient un sahélistan. Est-ce qu'il y a là une clé de lecture, une clé d'analyse de cet ensemble géographique?
Merci. Alors j'ai trop parlé jusque-là, donc je vais être obligé de... Ça va être l'Afrique de l'Ouest en 180 secondes. Je présente cette thèse en 180 secondes.
On
va
réduire le reste.
Non, non. Alors l'Afrique de l'Ouest, hein, vous voyez, j'ai mis en rouge les pays pour lesquels l'appartenance à l'Afrique de l'Ouest peut être discutée, ou selon les cas, mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, c'est une quinzaine de pays, à peu près 350 millions d'habitants. Avec une majorité de pays pauvres, si on exclut le Maroc, et quelques pays à revenus intermédiaires, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors effectivement, cet ensemble, on peut le lire de manière un peu simple, comme structuré par une opposition entre littoral intérieur et sud et nord, le littoral plus connecté à l'économie mondiale depuis très longtemps, l'intérieur enclavé, et puis le sud humide avec des ressources plus importantes, et le nord sahélien plus sec, plus exposé à la variabilité environnementale. Les spécialisations économiques qu'on observe encore aujourd'hui, hein, elles se sont mises en place à travers la lecture coloniale des avantages agro-climatiques, hein, avec une ceinture du golfe de Guinée autour d'une économie de plantation relativement diversifiée et relativement prospère parce qu'il y a de l'eau. Une zone soudanienne intermédiaire avec une culture cotonnière qui a permis une intégration dans la mondialisation qui a été tumultueuse, souvent c'était contraint, finalement ça a été accepté par les paysans, et finalement on a une culture qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes à cause de la variation des cours du coton, hein, donc une fragilisation socio-économique des producteurs, et puis un espace sahélien soumis à la variabilité climatique et qui a aussi historiquement, je dirais, été victime de ce qu'on a appelé une inversion territoriale, un retournement de territoire opéré depuis l'époque moderne, depuis le XVIe siècle et depuis que le commerce européen s'est développé sur les côtes de l'Afrique. Le Sahel, c'était une charnière, hein, entre l'Afrique méridionale et le monde méditerranéen, une charnière commerciale et économique et politique, et elle est devenue une marge dans le cadre de la colonisation et de l'économie moderne qui s'est mise en place par la suite. Alors, donc ça c'est une première lecture, je dirais, des structures, hein, économiques. Comment, dans le contexte contemporain, comment penser l'évolution de ces espaces? La fenêtre du golfe, la façade, hein, du golfe de Guinée, comme l'a dit Alain Dubresson, c'est un endroit qui concentre à la fois une bonne partie de la population, qui concentre les métropoles, les processus de métropolisation. Alors, les métropoles africaines, dans les classements sur le rayonnement international des métropoles, ne sont jamais très bien placées du point de vue des fonctions de commandement supérieur. Ça reste des métropoles, je dirais, un petit peu de deuxième division, de second rang. Mais néanmoins, il y a des processus de métropolisation importants auxquels on a assisté dans quelques villes, hein, comme Lagos, Accra, Abidjan, Dakar, en Afrique de l'Ouest, au cours des dernières années, qui contribuent à la dynamique économique de leur pays. Au-delà des métropoles, il y a cette sorte de continuum urbain, hein, qui fait une façade littorale assez peuplée et assez dynamique. Quand on regarde l'arrière-pays sahélien, alors on a des espaces qui sont densément peuplés, hein, on a une dorsale qui va du nord Cameroun jusqu'au Sénégal, en passant par le Burkina, le nord du Nigeria, avec des densités démographiques qui sont très élevées, et qui sont en position sahélo-soudanienne, qui sont des espaces donc, dans l'ensemble qui sont pauvres, où les densités démographiques sont élevées. Alors, ces espaces étaient souvent, ont été longtemps présentés comme des espaces agricoles. Au cours des 15 dernières années, il y a eu un nouveau cycle à cause du niveau élevé des prix des matières premières. Il y a eu des investissements miniers importants dans plusieurs de ces pays. Alors, là, pour reprendre un petit peu dans l'ordre, hein, les investissements extractifs qui ont un petit peu complexifié, si vous voulez, cette trame économique qui était celle de la carte économique héritée de la colonisation. Il y a une première vague dans les années 60-70 avec quelques mines et quelques exploitations qui se mettent en place, notamment le fer en Mauritanie ou l'uranium au Niger. Mais dans la période plus récente, donc dans les années 2000-2015, vous avez des pays qui ont présenté comme étant principalement agricoles et cotonniers, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, qui vont développer l'exploitation soit de l'or pour le Burkina et le Mali, soit du pétrole pour le Niger et le Tchad. Donc ça va, ces dynamiques d'investissement vont diversifier les sources de revenus des États. Et ça contribue aux croissances économiques. Quand on regarde les taux de croissance économique sur les cartes, on a eu des États qui avaient des taux de croissance économique importantes. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces rentes tirées des activités extractives. Ce qu'on a constaté, c'est que dans bien des cas, les modalités de mise en place de ces investissements, dans un contexte néolibéral où les États avaient finalement peu de contrôle sur les investissements, avaient touché une part fiscale assez limitée, mais surtout, ce n'était pas comme dans les années 60-70, où vous aviez dans beaucoup de pays des compagnies nationales qui contrôlaient les investissements. Là, on est dans un contexte néolibéral, avec des investissements étrangers, une rente qui revient à l'État, et cette rente s'est beaucoup investie dans des grands travaux urbains. Elle a été redistribuée, alors elle a quand même servi à recruter des jeunes dans la fonction publique. On a pu recruter pour l'ajustement structurel, donc il y a eu quand même une réouverture de l'emploi public à partir d'une redistribution des rentes. Mais dans l'ensemble, l'utilisation de ces rentes n'a pas été suffisante pour, je dirais, faire diminuer les inégalités sociales. Les inégalités sociales ont augmenté dans la plupart de ces pays. Ça n'a pas suffi à faire reculer vraiment la pauvreté, et ça n'a pas créé, peut-être c'est l'enjeu principal, à inventer un nouveau modèle à la fois d'agriculture familiale modernisée connectée à du développement territorial qui permettrait à ces régions de s'en sortir. Alors, au-delà des activités minières industrielles, il y a eu une forme importante qui a été, il y a eu des ruées vers l'or au Sahel dans les années récentes. Et je dirais que dans l'espace sahélo-saharien, ces ruées vers l'or sont très récentes. Elles ont commencé en 2012 au Soudan. Et les plus récentes, c'était janvier 2016 au Tchad et en Mauritanie. Ces ruées vers l'or, ça met en mouvement une partie de cette masse de jeunes dont on parlait depuis ce matin, des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes qui se mettent brutalement en mouvement. C'est la ruée vers l'or de Sandars en Amérique il y a un siècle, qui se mettent en mouvement du jour au lendemain. Et alors, les facteurs qui ont permis d'expliquer ces ruées vers l'or, c'est le prix élevé de l'or, mais aussi, c'est aussi des innovations technologiques en lien avec cette mondialisation dont on parlait, des pick-up, des voitures moins chères, des détecteurs de métaux plus performants et moins chers, modèle chinois ou indien notamment, et puis toutes sortes de matériel qui permettent de creuser des trous et de transformer la production d'or, parfois en plein désert. Vous voyez, il y a un certain nombre de zones à la frontière de la Libye et du Tchad, ou de l'Algérie, du Niger et de la Libye, où on est en plein désert, dans des endroits où il n'y a pas d'eau, donc il y a des flux de camions qui amènent l'eau vers des villes qui surgissent ex nihilo, et qui sont des formes d'adaptation à ces conditions. Les États ont souvent laissé faire ces ruées vers l'or, parce que dans un contexte, je n'ai pas le temps de revenir en détail sur la déstabilisation du Sahara, je vous renvoie le numéro de la documentation photographique qui est bien fait sur le sujet, mais je vous conseille de lire un article de Laurent Gagnol et de Emmanuel Grégoire dans la revue Éco-Géo sur les ruées vers l'or au Niger. On explique bien que les États ont laissé faire parce que dans ce contexte instable, eh bien pour les États, c'est un moyen de trouver de l'argent et de distribuer des ressources à un très grand nombre de gens. Alors dans un premier temps, il y a eu, un laisser faire pour ça. Mais vous avez un certain nombre de pays où la question se pose. Est-ce qu'on doit développer l'exploitation industrielle de l'or ou est-ce qu'on doit laisser l'orpaillage ? L'exploitation industrielle, ça rapporte à l'État. L'orpaillage, ça crée plein d'inconvénients, des conditions de travail très dures, des impacts environnementaux, du banditisme, des produits chimiques, donc du cyanure et du mercure disséminés dans l'environnement, la liste serait longue. Mais par contre, vous distribuez de l'argent à des dizaines de milliers de jeunes et des gens potentiellement un peu aventuriers, des cadets sociaux, des gens qui ne sont pas établis et qui, pendant qu'ils cherchent de l'or, ils ne sont pas en train de faire la rébellion ou le terrorisme. Donc là, les États hésitent, et dans un pays comme le Tchad, comme le Soudan, ces hésitations sont importantes aujourd'hui.
Eh bien, merci. On va conclure peut-être, Laurent, parce qu'il est 12h30. Alain Dubresson, gentiment, nous propose de mettre tout ce qu'il voulait apporter sur Afrique australe et Afrique orientale sur le site, de manière à ce que chacun y ait accès. Et Laurent, si tu veux conclure.
Oui, je crois qu'on a été un peu ambitieux.
mais c'est aussi le plaisir de la géographie, du voyage, de la découverte, de la ruée vers l'or. Hein. J'ai vu scintiller les yeux dans la salle, on voit bien que ça crée des vocations et que... Bon, voilà. Alors, on vous remercie de cette journée. Je remercie vraiment nos intervenants qui ont été... Les corps d'inspection pédagogiques régionaux avec nos grands...